sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci beaucoup, chers confrères. Je suis très honorée de venir ici parce que même si l'Académie des sciences est une académie un peu tumultueuse et conséquente, celle-ci est tout aussi importante pour notre pays. Donc, je vais essayer de vous faire partager ce que je pense sur la science à l'international. Surtout dans les temps que nous vivons, dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Donc, mon exposé va se partager en trois parties. La première qui va parler de la science elle-même, c'est-à-dire le visage de la science se transforme. Puis la seconde, c'est la mutation du métier de chercheur. Et la troisième, c'est la diplomatie scientifique et le rôle de la France. Dans tous les cas, il y a le rôle de la France aussi. Donc, le visage de la science aujourd'hui se transforme. Et j'aime beaucoup cette expression de Victor Hugo, qui, dans son livre William Shakespeare, et dans le chapitre L'art et la science, où il compare l'art et la science, où il montre comment la science croit et comment l'art est toujours égal à lui-même, il dit ceci : il dit, la science va sans cesse se raturant elle-même, rature féconde. C'était en 1864. Alors, un siècle et demi plus tard, nous arrivons à un point où je pense qu'il y a trop de ratures. La science croule sous ses ratures. Comment déterminer le juste du faux et l'utile de l'inutile ? Avant de répondre à cette question, on doit donc d'abord se poser et de définir le concept de science. Et vous avez parlé tout à l'heure de sciences humaines et sociales. Et dans le trésor de la langue française, on lit au sens littéraire du mot science la somme des connaissances qu'un individu possède ou peut acquérir par l'étude, la réflexion ou l'expérience. Mais au chapitre scientifique, on trouve que la science est un ensemble structuré de connaissances qui se rapporte à des faits obéissant à des lois objectives et dont la mise au point exige systématisation et méthode. Donc la science, au sens scientifique, exige donc systématisation. Elle exige une structure de structurer l'accumulation des connaissances acquises pour obtenir un ensemble cohérent. Et dans son livre, Stephen Hawking, Sur les épaules d'un géant, exprime comment la science contemporaine s'appuie de manière cumulative sur les savoirs antérieurs. Alors il cite Bernard de Chartres, philosophe platonicien du XIIe siècle, qui a dit le premier « Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. Nous voyons plus qu'eux et plus loin, non que notre regard soit perçant ni élevé notre taille, mais nous sommes élevés, exaucés par leur stature gigantesque. » Newton reprend cette idée et il note cet aphorisme qui est devenu célèbre, si j'ai vu plus loin, c'est en me mettant debout sur les épaules des géants. Donc la science est cumulative et cette accumulation se fait collectivement. Alors le caractère cumulatif et collectif qui a fait la force de la science en fait aujourd'hui sa vulnérabilité. Tandis qu'il y a encore une trentaine d'années, les résultats scientifiques pouvaient être triés et systématisés par les chercheurs au fur et à mesure de leurs découvertes, l'accumulation de données aujourd'hui est une telle déferlante que les scientifiques eux-mêmes ont une extrême difficulté à systématiser les connaissances et que le temps vient à manquer pour organiser les idées. Alors, dans son livre « Little Science, Big Science and Beyond », originellement publié en 1963, Derek de Solar Price, qui est un historien des sciences, qui est le père de la bibliométrie, fait une analyse pertinente de la croissance du savoir scientifique. Et il parle de la taille de la science, dont il mesure la progression au cours du temps, en pointant l'évolution du nombre de scientifiques, du nombre de publications, du nombre de revues, et il montre que ces indicateurs obéissent tous à la même loi exponentielle, doublant en moyenne tous les 10 à 15 ans. Alors, le propre d'une croissance exponentielle réside dans le fait que le taux de croissance est proportionnel à la taille. Donc, plus on est gros, plus on croît vite. Et donc, depuis toujours, le nombre de publications suit sa course exponentielle. Alors, depuis toujours, c'est-à-dire depuis l'année 1665, qui voit la naissance des deux premières revues scientifiques, le Journal des Savants à Paris, dont l'objectif était de faire connaître ce qui se passe de nouveau dans la République des Lettres, et le Philosophical Transaction de la Royal Society à Londres, qui fut le premier journal exclusivement consacré à la science. Et depuis lors, les découvertes, les interprétations, les discussions, les ratures de la science, comme l'exprime Victor Hugo, ont été consignées avec soin dans les publications éditées par des revues scientifiques. D'ailleurs, ces mêmes revues scientifiques ne sont plus à la Bibliothèque nationale, tellement il y en a. Donc Derek Price les a comptabilisées sur 300 ans et il a montré qu'effectivement, on était passé de little à big de manière continue. Et ça, c'était en 1963. Alors depuis, si on continue ce même calcul, on constate avec la National Science Foundation que le nombre de publications était de 450 000 en 1988. Le rapport de l'UNESCO en 2010 estime qu'en 2008, le nombre de publications était 985 000, mais aujourd'hui, que le taux annuel de publication est compris entre 1,6 et 2 millions par an, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir lu tout ce qui se passait avant, ce qui veut dire que c'est une publication toutes les 15 à 20 secondes. Et ça, je calcule un tout petit peu plus vite que tout à l'heure quand vous avez fait votre calcul pour les correspondants. Donc c'est une littérature qui devient complètement absurde. Absurde parce que comment évaluer une telle accumulation compulsive de résultats ? Et du coup, c'est la porte ouverte aux publications erronées. Et dont Cécile Durlache, dans journaliste à Futura Science, alerte à juste titre et elle dit « Dans le monde de la science, on connaît depuis plusieurs années le phénomène des études bidonnées, entre guillemets, ou largement surévaluées pour faire du buzz ou répondre à un résultat prévu à l'avance. Et selon les domaines de recherche, on estime à environ 40% des résultats publiés qui sont des études impossibles à reproduire. » Alors, là-dessus, depuis quelques années, on ajoute un nouveau travers qui est celui des faux relecteurs. Et donc, on peut se poser aujourd'hui la question, quelle est la signification du mot « science » lorsqu'on se trouve dans l'impossibilité de systématiser les données. Donc, l'amoncellement de publications hétéroclites, mise en vrac, confère à l'ensemble une image que je trouve d'entrepôt mal rangé, et ouvre grande la porte au relativisme, c'est-à-dire ce courant de pensée philosophique qui ressurgit régulièrement depuis l'Antiquité, où il n'existe ni le vrai ni le faux et où tout est relatif. Le système de publication avec validation des résultats par les pairs est donc mis à mal et un nouveau mode de validation des résultats de la recherche doit être mis en place, un peu à l'image de celui que nous avons dans Wikipédia, où on construit la validation par itération successive. Et donc la science ouverte s'installe et elle va bouleverser l'évaluation. En tout cas, c'est à espérer, puisqu'on n'est plus capable d'évaluer avec les méthodes précédentes. De plus, les conséquences d'une découverte ne sont pas toujours immédiatement prévisibles. Et le temps est l'élément indispensable pour faire émerger le vrai, le beau ou l'utile pour l'homme. Aujourd'hui, la multiplicité des petites découvertes, qui se résument souvent à des observations ou à des constatations de l'existant, la prolifération d'inventions de toutes sortes, qui ne nécessitent pas d'être comprises pour être utilisées, alors il y en a une actuellement avec les Chinois qui sont extrêmement fiers de ça, c'est de prendre un téléphone flexible que vous pouvez mettre dans la poche arrière de votre jean, si vous en avez un, et qui épouse la forme de votre fesse et donc est moins désagréable que d'avoir un téléphone rigide. Donc enfin, tout ce genre de choses est quand même assez ridicule quand on réfléchit aux problèmes que nous avons aujourd'hui avec toute cette surconsommation de choses inutiles. Donc, en fait, on ne laisse pas autant le soin de la vénérature. Et discerner les découvertes qui resteront sans lendemain de celles qui, au contraire, aujourd'hui, inaperçues, s'avéreront riches de prolongements utiles, nécessite du temps. Donc voilà un peu où on en est dans la au niveau scientifique, au niveau de la science. Alors la mutation du métier de chercheur. Dans ce contexte, la communauté scientifique vit aujourd'hui une mutation du métier de chercheur. Pour la même raison, c'est-à-dire que l'image du chercheur, pour différentes raisons en fait, mais dont l'une est le nombre de chercheurs, mais l'autre est l'image du chercheur qui, face à sa manip ou dans une bibliothèque, s'est muée en un chercheur devant l'écran de son ordinateur. La robotisation des expériences, la numérisation des écrits, des papiers, des photographies, ont considérablement réduit le temps passé pour obtenir des réponses. Mais l'écran qui les transmet nous éloigne du réel. Et la vérité scientifique s'évalue à travers des messages qui s'affichent sur les écrans, et cet outil entraîne un changement d'attitude vis-à-vis de la science, car image et vérité ne sont pas synonymes. Et l'on voit croître des déviances au sein du comportement de certains chercheurs scientifiques, et d'où tout ce qu'on est en train de mettre en place sur l'intégrité scientifique. Alors, devant son ordinateur, le chercheur est aussi à la fois seul, mais il est aussi perpétuellement en symbiose avec la communauté scientifique. Donc, il est stimulé par les sollicitations des hyperconnexions qu'il galvanise pour publier au plus vite un résultat, même parcellaire. Et aussi, son apport personnel est inhibé par le temps qu'il ne prend plus pour puiser dans les fondements de sa pensée. Donc, il est indispensable de repenser au temps avec lequel nous devons faire de la recherche. De plus, le nombre de chercheurs suit une croissance exponentielle, comme les publications, bien évidemment, comme les journaux, et l'Institut statistique de l'UNESCO, qui indiquait 7,8 millions équivalents temps plein de scientifiques en 2013, avec la croissance exponentielle, doit dépasser les 10 millions en 2020. Donc, la recherche a changé de visage. Elle a mué d'une recherche d'élite réalisée par un petit nombre de savants qui se connaissaient tous entre eux en une recherche de masse, et sa gestion doit s'adapter à cette transformation. De plus, les recherches des scientifiques professionnels côtoient ce que l'on appelle les recherches participatives ou parfois appelées recherches citoyennes ou recherches collaboratives. Elles sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles les acteurs non scientifiques, professionnels, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée, exprime François Houllier dans son rapport. La recherche hors les murs des laboratoires existe de tout temps. Ça, c'est clair. L'exemple des astronomes est révélateur. Elle est pratiquée, à titre de loisir, par un large public d'astronomes amateurs qui apporte un tribut à la connaissance. Un autre exemple de recherche participative concerne la biodiversité, cette diversité fascinante des formes de vie sur la Terre, où chaque espèce se développe ou développe des comportements qui sont propres et que l'homme observe et consigne avec soin. Alors, par exemple, concernant les oiseaux migrateurs, c'est intéressant de voir que les premières données officielles que les bénévoles ont envoyées au gouvernement américain datent de 1880 et qu'elles ont été consignées et maintenant elles sont numérisées et on a comme ça, depuis 1880, des connaissances sur les migrations de certains oiseaux. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, à l'âge de l'Internet, des sciences citoyennes ? Donc, le Muséum d'histoire naturelle, qui a été fondé en 1793 et où est consignée une grande partie des collections de spécimens de botanique, beaucoup ont été justement collectionnés par ce qu'on appellerait aujourd'hui la science participative, propose à tous les citoyens de contribuer à l'amélioration des connaissances sur la biodiversité. Donc, la science participative résulte aussi de donneurs d'alerte qui repèrent les épidémies et leur propagation, d'associations de malades qui relèvent des effets secondaires des médicaments. Et cette recherche participative citoyenne est d'autant plus efficace qu'elle s'établit conjointement avec des scientifiques lorsque ceux-ci acceptent de sortir de leur tour d'ivoire. Elle présente un intérêt majeur qui est celui de mieux faire appréhender la science par la société. Et la science pénètre ainsi dans la société. Elle appartient à tous. Mais les recherches participatives ne concernent pas uniquement les sciences de l'observation. Elles touchent aussi les sciences de l'informatique, où les recherches scientifiques et technologiques non seulement se côtoient, mais sont fortement imbriquées. Alors, des concours d'informatique sont organisés de toutes parts et en particulier par les GAFAM, qui apportent leur contribution à la construction du savoir. Ils sont ouverts aux informaticiens du monde entier, à des milliers d'étudiants qui créent chaque année des applications, des jeux, des dispositifs pour l'intelligence artificielle. Mais ces concours ne sont pas mis en place de manière désintéressée. Ils permettent de repérer les meilleurs ingénieurs à moindre coût, pas nécessairement par les pays qui ont formé ces ingénieurs. Donc on se trouve parfois dans un conflit entre le gain financier pour l'économie des entreprises et puis le coût que ça a de la formation qu'a eu payé le pays. Alors le troisième exemple de recherche participative, qui est encore plus grave à mon sens, c'est DIY, c'est-à-dire « do it yourself », dont la traduction française c'est « faites-le vous-même », qui est une forme de recherche hors les murs des laboratoires et hors les murs qui nécessite peu de moyens. En fait, la science qui nécessite de gros moyens technologiques, je dirais, elle est protégée de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que on est, compte tenu du coût, on se trouve devant une situation dans laquelle on est obligé de réfléchir avant d'agir, si je puis dire. Tandis que là, avec le développement du numérique, cette science participative de do it yourself est très vulnérable. Elle est sans danger, évidemment, pour les créations artistiques, mais elle pose des questions éthiques et graves dans le domaine de ce que j'appellerais le bricolage du vivant, dans lequel on a des kits de modifications génétiques qui sont vendus clandestinement. Alors, si vous pouvez changer vos cellules somatiques, par exemple, vous voulez changer la couleur de votre peau, avoir du vert ou je ne sais quoi, c'est pas dramatique parce que ça ne concerne que vous-même. Donc, changez vous-même, après tout, un individu sur les milliards que nous sommes, c'est pas très grave. Mais ce qui est très grave, c'est quand on veut changer, justement, au niveau des cellules génétiques et qu'ensuite on a la transmission. Et donc là, il y a des points d'éthique absolument, des verrous indispensables pour ne pas toucher ni aux spermatozoïdes, ni aux ovocytes, ni aux cellules germinales. Et on n'est jamais à la merci de gens qui le font quand même. Et de plus, même dans la modification de l'ADN, on n'a pas fini de comprendre. Et les familles multigénétiques que l'on découvre aujourd'hui n'a pas fini de nous surprendre. Alors, il est alors ici crucial encore de prendre le temps d'identifier les mesures qui permettent d'éviter les écarts aux règles éthiques et de promouvoir une recherche, je dirais, en co-développement entre celle qui est menée dans les laboratoires et celle qui est dite citoyenne. Et aussi de réfléchir à la part que l'on doit donner à cette recherche. Alors le troisième point va concerner la diplomatie scientifique. Donc dans tout ce contexte en mouvement, des choses qui sont en train de bouger, la diplomatie scientifique va être aussi impactée, c'est-à-dire que la science est universelle, donc tout ce que j'ai dit concerne est disponible à tous, mais la recherche scientifique ne l'est pas. Cette dernière est effectuée dans les pays qui lui accordent un pourcentage de leur PIB. Alors, quand on dépasse 2, c'est pas trop mal encore. On pourrait aller à 3, ce serait bien. Mais pas n'importe comment. Et les avancées de la connaissance sont attribuées implicitement aux pays qui produisent les savoirs. Hein, se pose la question, les peuples qui construisent la science et qui la transmettent par leur système éducatif, les ingénieurs qui inventent de nouvelles technologies, sont-ils plus à même de comprendre la science et de l'utiliser que ceux qui ne l'ont pas fait ? Ça, ça nous pose une véritable question. On ne la pose pas, mais en fait, implicitement, on utilise cette hiérarchie. Et aujourd'hui, le positionnement relatif d'un pays dans la compétition scientifique et technologique est une composante importante des relations diplomatiques avec cette hiérarchie. Donc toutes les relations diplomatiques entre pays développés ou pays émergents intègrent ce paramètre et il n'est plus de relations diplomatiques durables qui n'incluent pas les relations scientifiques. Alors cette diplomatie peut se subdiviser en deux parties, la diplomatie pour la science et puis la science pour la diplomatie. La diplomatie pour la science, je dirais que c'est l'intensité, c'est la facilité des échanges, des relations scientifiques entre les pays, c'est de mettre en place des accords binationaux, multinationaux, des actions intégrées, de vérifier la sécurité juridique pour la propriété intellectuelle, de s'intéresser aux grands instruments comme le ERC, le CERN, les observatoires, les réseaux d'instituts Pasteur. Et de mettre en place des programmes. Ça, je dirais que c'est la diplomatie pour la science, c'est le rôle des diplomates pour aider la science. Mais l'autre est, à mon sens, plus intéressante, qui est la science pour la diplomatie, qui est comment faire de la science un vecteur d'influence pour la France à l'étranger, par exemple. Et l'enjeu de la diplomatie scientifique est de montrer que la science est un pays à haut potentiel scientifique et technologique, en évitant tous les écueils que j'ai dit tout à l'heure, et qui est un pays d'accueil important pour la formation. Alors aujourd'hui, on a 5 millions d'étudiants qui se déplacent, qui ne restent pas dans leur pays, ce qui correspond seulement à 2,3% de la population d'étudiants dans le monde entier. Et ils étudient à l'étranger. Et la mobilité étudiante ne fait que croître. Elle a cru de 28% en 5 ans, selon l'UNESCO. La France, comme l'Allemagne et la Chine, la France est dans le top 10 des pays qui à la fois envoient mais aussi accueillent des étudiants. Et le critère essentiel pour faire venir en France de très bons chercheurs étrangers, en fait, est le renom des pôles d'excellence, qui est implicite dans notre pays. Parce que notre pays, avec notre devise, liberté, égalité, fraternité, tout le monde, c'est l'égalité qui domine. Mais en dessous de ça, on a des écoles d'ingénieurs, on a des classifications que l'on ne montre pas, mais qui sont connues. Et donc, c'est ainsi que les liens entre les scientifiques de pays, dont les relations diplomatiques, et c'est ainsi que les scientifiques font passer les messages des pôles d'excellence. Par exemple, si on regarde l'école polytechnique, aujourd'hui, sur 500 élèves, une centaine sont des étrangers. Et des très bons étrangers. Alors ça, c'est l'influence sur le territoire. Ensuite, on a la science pour la diplomatie, qui est le fait de garder ces liens que l'on a tissés avec des pays qui sont dont les relations diplomatiques sont faibles, voire parfois inexistantes. Alors nous n'avons par exemple pas manqué de garder des liens avec les pays d'Amérique latine pendant leur période sombre. Et la neutralité politique de la science permet des échanges scientifiques qui se développent même lorsque le contexte diplomatique a des difficultés à s'épanouir. Alors ces collaborations scientifiques, même à basse intensité, créent un contexte inducteur favorable à l'émergence, le moment venu de la reprise des relations diplomatiques. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinairement délicat, je dois dire. Et il faut toujours faire très attention entre le fait de conserver des contacts et puis aussi une appétence pour certains régimes politiques plutôt que d'autres. Et donc, à mon sens, je trouve que, mais ça c'est une remarque personnelle, Je trouve qu'on devrait avoir plus de relations entre les scientifiques et les diplomates, non pas pour que les uns influencent les autres de manière ostentatoire, mais surtout pour éviter que d'un côté les chercheurs se fassent manipuler ou de l'autre côté qu'ils manipulent par le fait de la science. Donc ça, c'est un des points sur lequel notre pays n'est peut-être pas suffisamment, n'a pas suffisamment su intégrer ces relations entre la science et la diplomatie, et pour maintenir un équilibre qui est quand même fragile. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, et ensuite je suis prête à répondre aux questions. Donc je dirais qu'en conclusion, la diffusion et l'échange de connaissances scientifiques, de méthodes, de procédés technologiques sont probablement le plus ancien exemple de mondialisation qui existe, et au sens de l'essaimage géographique des savoirs et des savoir-faire. Mais il est crucial que les connaissances soient validées avant de les transmettre. Je vous remercie.